des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois cette émission Des livres plein les oreilles consacrée aux livres audio. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une auteure du Nouveau-Brunswick, j'espère que je l'ai bien dit, quelqu'un qui fait dans le polar de qualité. Elle nous arrive avec une trilogie, du moins le tome 1, et chaque livre porte un nom de femme. On va commencer avec Annabelle qui vient d'être enregistrée par Vues et Voix. Ce sera donc une entrevue avec l'auteur Suzanne Payne et un extrait bien évidemment. À Radio-Canada, La valeur de sable de Stéphane Bourguignon a été enregistrée par Normand Dano. Je suis allée jeter une oreille là-dessus. Et puis, il y a un bouquin que j'ai tellement aimé lire à voix basse comme à voix haute. En anglais, c'est Hunger et en français, c'est Affamé. Il s'agit d'un essai de Roxane Gay. L'histoire vraie d'une déchirure dans la vie d'une enfant qui décide de s'envelopper littéralement de graisse pour que plus personne ne fasse du mal à ce corps. C'est puissant, c'est grandiose, ça fait mal et ça fait aussi du bien. Et puis, on va avoir aussi Yannick Olassat qui va nous proposer aujourd'hui un livre qui l'a marqué, « Un monde mort comme la lune » de Michel Jean. Quel beau titre! Et tout ça, c'est dans l'émission des livres plein les oreilles qui, comme vous le découvrez peut-être, se consacre exclusivement aux livres audio.
Inspecta les lieux habiles, il semblait très heureux, dit-il. Encore des amoureux, faut-il chercher plus loin le mobile. Elle était blonde et très pâle, il était brun de sexe mâle, elle de sexe féminin. Faut-il chercher encore plus loin? Encore un sale cas, fit-il entre ses dents. Non, ce n'est pas un accident. D'où vient cette lettre anonyme, postée du quartier des victimes, jaloux de leurs ébats sublimes? Mais rien à voir avec le crime. Il retourna dans le salon, un foyer des divans profonds. On voit qu'il ne manquait de rien, mais le confort n'y est pour rien. Encore un sale cas, fit-il entre ses dents. Non, ce n'est pas un accident. Encore un sale cas, fit-il entre ses dents. Non, ce n'est pas un accident. Et lorsqu'il sortait, les amants prenaient la ville d'assaut. Ils ne pouvaient savoir dans quel recoin bizarre se cachait le salaud. Car le le premier secret trahi, les portes claquées dans la nuit, la passion ne part pas sans bruit. Le détective voyait tout ça comme s'il avait été là. La femme courant sur le trottoir, l'homme la suppliant dans le soir. Encore un sale cas, fit-il entre ses dents. Ce n'est pas un accident. Encore un sale cas, fit-il entre ses dents. Non, ce n'est pas un accident. Elle était blonde et très pâle, Il était brun de sexe mâle. C'est le temps qui les a tués. Mais le temps, comment l'arrêter?
Il s'appelle Jean Viau et la chanson, c'était Enquête sur une histoire d'amour. J'avais choisi ça, pas tout à fait par hasard, parce que dans le livre dont on va maintenant parler, on enquête sur une histoire d'amour qui finit mal, oh, mais très très mal. Bonjour, Madame Suzanne Payne.
Bonjour.
Je suis ravie de vous parler, Suzanne. Vous êtes à Moncton même?
C'est ça, exactement, oui.
Bon, écoutez, on avait très rapidement, on avait une grande discussion. Moi, j'arrive jamais à dire Nouveau-Brunswick comme du monde. Est-ce que là, je l'ai bien dit?
Oui, c'est parfait.
C'est vrai, parce qu'avant, je disais Brunswick. En tout cas, bref, tout le monde se moquait de moi. Si bien que finalement, je disais newbie. Tu sais, parce que c'est à un moment donné, tu dis arrête. Ah, bon, mais là, là, ça va alors. Brunswick,
oui.
C'est parfait. Bon.
Exactement.
Suzanne Payne, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec vous, avec la femme écrivain que vous êtes. C'est pas
d'accord.
Votre premier livre, hein, c'est pas votre première trilogie, ça. Vous étiez déjà rompu à ce style-là il y a quelques années, non?
Oui, mais en fait, c'est ma première trilogie.
Ah, OK.
Oui.
OK. Alors, donc, c'est bien Annabelle.
Oui.
Ça, c'est le tome 1. Et la trilogie, c'est Pour toi, mon amour, pour toujours. C'est bien ça.
C'est ça.
Bon. J'avais entendu parler de Crimes et Comas.
Oui.
Ça, vous l'avez écrit aussi. C'était paru aux éditions Tarma. C'est bien ça?
C'est ça, oui. En fait, Crimes et Comas, c'est l'ancêtre de Annabelle.
Ah!
Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, la maison d'édition a fermé ses portes.
Ah, d'accord.
Et moi, j'avais continué à écrire et ce roman-là était devenu un peu par accident une trilogie. Et je me retrouvais un peu auteur orpheline, mm-hmm. sans maison d'édition. Et tout à coup, ben là, j'avais trois tomes.
Mmh.
Alors, j'ai été chanceuse. Je me suis fait, j'aime dire que je me suis fait adopter par
oui.
la maison d'édition Personnage.
Donc, je voudrais qu'on parle un petit peu, parce que
oui.
c'est une maison d'édition rare, comme on les aime.
Ah, absolument. C'est des gens fantastiques. Et c'est ça, quand on s'est rencontrés, moi, je leur avais soumis le deuxième tome, parce que le premier tome, à l'époque, était toujours en magasin, toujours disponible, malgré la disparition de la maison d'édition.
Mm-hmm.
Et quand on a fini par se rencontrer, je leur ai dit, ben écoutez, c'est le tome 2. Et là, ils ont dit, ben on va quand même pas publier le 2 et le 3 sans publier le 1. Alors, on l'a travaillé un petit peu.
Mm-hmm.
On l'a, essentiellement, c'est la même chose, mais on a quand même fait deux ou trois petites modifications mineures. Et Crime et Comas est devenu Annabelle. Et ensuite, il y a quelques semaines, on a sorti le deuxième tome qui s'appelle Valérie.
Mmh.
Et à l'automne, on va sortir Joël qui est le troisième et dernier tome.
Alors, que je vous le dise tout de suite, généralement, je lis les livres des gens que je reçois du début à la fin, mais mmh. jamais quand il s'agit d'un polar, parce que je peux être maladroite. Alors, je veux tellement pas. Et écoutez, je me suis arrêtée de peine et de misère 70 pages avant la fin, parce que là, je me disais, non, ça n'a comme pas de bon sens, je vais le savoir. Non, mais c'est vrai. On est dans... Bon, on ne fait pas dans la dentelle. On sait tout de suite, dès les premières pages, que le tueur était quand même un taré de la pire espèce.
Absolument.
Hein? Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas un genre de Stephen King, c'est-à-dire vous ne vous arrêtez pas pendant 15 pages sur toutes les violences qu'ont subies les deux protagonistes et
mm-hmm.
les pauvres petits minous, mais quand même, on a une bonne idée de ce à quoi ça ressemble.
Hein? Oui, moi je fais quand même, ça fait partie de ma démarche de ne pas décrire justement ces événements de violence-là.
OK.
D'une part, parce que malgré le fait que c'est moi qui écrive ça, ça me bouleverse un petit peu, toute cette violence. Et aussi parce que je me dis que le lecteur peut très bien lui-même s'imaginer l'horreur.
Comme de fait.
Absolument.
Comme de fait.
Et d'ailleurs, je décris pas non plus beaucoup les lieux. Je décris pas beaucoup les personnages.
Non. On sait même pas où on est, en fait.
Ouais.
Non, c'est ça.
Une ville, ouais. Ça peut être n'importe où, la ville.
Ouais. Ouais.
Et puis, le lecteur peut faire son bout de chemin à lui et aller dans son univers à lui, qui lui plaît à lui.
Alors,
c'est pour ça que je fais ça comme ça.
Annabelle, c'est celle qui est assassinée.
Ouais.
Enfin, Oui, moi pour l'instant c'est là que j'en suis, parce que je vous avouerai qu'entre elle et Valérie, au début, je me suis dit, elle fait exprès pour nous mélanger l'auteur. Parce que c'est vrai qu'il y avait des fois où je mélangeais leurs deux histoires, alors qu'elles sont très différentes, elles ne viennent pas du même milieu, le niveau d'éducation et le niveau de vie n'est pas le même, mais il y a des fois où j'étais mêlée, vous l'avez fait exprès, hein?
Ben oui, un petit peu.
J'imagine, parce que tout d'un coup, je disais, mais attends, de qui elle parle? Mais là, c'est pas parce que les deux histoires n'ont rien à voir l'une avec l'autre, si ce n'est qu'on est dans une fin d'amour, dans un abandon et dans une porte ouverte peut-être sur autre chose.
Exactement. Mais vous allez voir, à mesure que le roman avance, il y a un lien qui unit ces deux femmes-là. Et on le connaît un petit peu vers la fin du roman.
Alors, vous m'avez dit tantôt que c'était par accident que c'était devenu une trilogie. Qu'est-ce que ça veut dire par accident?
Ben, en fait, moi, j'avais écrit un roman. J'étais très satisfaite du résultat et j'avais déjà commencé à travailler sur d'autres projets. Par contre, ce roman-là a une fin ouverte. Et ça, j'avais fait ça intentionnellement en me disant que le lecteur, encore là, moi, j'aime beaucoup laisser de place au lecteur. Mmh. Et je me disais, le lecteur pourra lui-même ou elle-même décider de la fin. Donc là, ça se termine et après ça, le lecteur pourra dire « Ah, moi, je crois qu'il est arrivé ceci ou cela. » Sauf que ça a eu l'effet contraire, ça a fâché à peu près tous les lecteurs. Et à chaque fois que je rencontrais des gens, parce que moi, ce qu'il faut savoir, je vis à Moncton, c'est une petite ville, alors je rencontre mes lecteurs à l'épicerie, je les rencontre un peu partout en ville, et les gens ne se gênent pas pour me dire, ben voyons donc, tu peux pas terminer ça comme ça, on veut savoir la fin, il te manque un chapitre. Et à chaque fois qu'on me disait ça, il te manque un chapitre, je disais non, c'est fini, on passe à autre chose. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais leur faire leur chapitre, je vais leur écrire, et à chaque fois que quelqu'un va me dire, il te manque un chapitre, je vais dire, ok, ben donne-moi ton adresse courriel, je t'envoie ça en document Word, et puis voilà, c'est terminé.
C'est incroyable, mais voyez-vous, ça, c'est exactement, Suzanne, la raison pour laquelle je voulais vous avoir au bout du fil aujourd'hui. C'est parce que j'aime ce côté totalement vrai, c'est d'écrire et d'être entendu et d'être lu et d'être écouté par vos lecteurs et vos auditeurs, parce que est-ce que j'ai précisé qu'évidemment si vous êtes là aussi à l'émission des livres pleins les oreilles, c'est parce que votre livre a été lu ici par Marie-Josée Forget. Toutefois, ce n'est pas une production Vues et Voix, mais on pourra se procurer ce livre-là, ce livre audio, en passant par les éditions Personnages, j'imagine.
Ah oui, absolument. Hein? Il est disponible dans plusieurs librairies au Québec, d'ailleurs.
Non, mais je parle du livre audio en tant que tel.
Ah oui, le livre audio, oui, absolument.
Hein? En passant par simplement édition Personnages. D'abord, allez voir, je vous invite, les gens qui nous écoutaient, à découvrir cette maison d'édition-là, qui justement représente des gens comme Suzanne Payne, avec qui je parle maintenant. Suzanne, je vous propose d'écouter Marie-Josée Forget dans un petit extrait. Nous sommes au début du livre. Extrait de Annabelle, tome 1 de votre trilogie.
D'accord.
À première vue, la grande maison semble déserte. Seul le bruit de la douche et la buée qui s'en échappe trahissent la présence de Valérie qui reste là, sans bouger, les yeux fermés, le front appuyé contre la paroi de verre givrée, laissant l'eau couler le long de son corps. Plusieurs minutes plus tard, elle n'a toujours pas bougé. L'eau, maintenant froide, ne semble pas l'incommoder. Elle ferme finalement le robinet. Sans entrain, elle ouvre la porte vitrée et prend sa serviette. Elle s'éponge lentement le visage et le cou, puis s'arrête. Comme si le temps avait subitement cessé de tourner, elle reste là, immobile, fermant les yeux de nouveau. Couché de tout son long sur le plancher devant la grande fenêtre, près de la baignoire, Pedro l'observe sans bouger, heureux de profiter des rayons du soleil. À ses côtés, sur le plancher, les vêtements épars et les chaussures de course de sa maîtresse. Elle était particulièrement en forme ce matin. Ils ont couru plus vite et plus loin que d'habitude. Mais Pedro n'est plus très jeune et il est fatigué.
«
Alors, je vais tout de suite vous dire quelque chose, Suzanne. On n'a pas utilisé la musique de M. Mancini, de la Panthère Rose, hein, sur le livre audio. Hein. C'est moi qui m'amuse toujours à faire un petit habillage comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre vos mots?
C'est très, comment dire, c'est très bizarre, parce qu'évidemment, ils sortent de la voix de notre personne. C'est bizarre, mais c'est aussi très excitant. ça rend la chose très vraie.
Alors, excusez-moi, je vous ai interrompu, allez-y.
Ah non, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'écriture, c'est une activité très solitaire. Ouais. On fait ça tout seul à la maison. Et de l'entendre venir d'une autre personne, c'est difficile à décrire le sentiment.
J'imagine bien. Mm-hmm. Je dois vous dire aussi que vous avez une très belle écriture cinématographique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous campez bien vos personnages et les intentions sont claires. Je sais pas, par exemple, je pense à la concierge au début, mm-hmm. à sa façon dont elle fait du mémérage, si vous me permettez l'expression, avec l'inspecteur qui la remet toujours à sa place, etc. Oui. Mais non, c'est vrai, tout ça est très vivant et très... qu'on le lise ou qu'on l'entende, on est vraiment dans la situation. Bravo, parce que je ne connais pas énormément... Bon, on connaît quelques auteurs, autrices de polar très célèbres, mais malheureusement, on n'en connaît pas assez d'autres. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous donner la place, Suzanne Payne, dans cette émission.
Alors, merci.
Mais je vous en prie. Alors, Annabelle, c'est le tome 1 de cette trilogie, le rappelle, qui s'appelle « Pour toi, mon amour, pour toujours ». L'enquête en tant que telle, ça se finit avec le tome 1. Ensuite, tome 2 et 3, on cherche à comprendre pourquoi ça a eu lieu. C'est bien ça?
Malheureusement, il va y avoir d'autres crimes.
Allons bon.
Ben oui, malheureusement. Alors, il va falloir que l'enquête se continue. L'enquête sur le crime dont Annabelle a été victime, évidemment, va se terminer, mais il va se passer d'autres choses. Alors, il va falloir continuer. Le travail des enquêteurs n'est pas terminé et ils vont continuer à essayer de comprendre le comment et le pourquoi. En fait, c'est ce que c'est. Hein? Le premier tome, c'est le crime. Le deuxième, c'est le qui. Qui a fait ce crime-là contre Annabelle? Et le troisième, c'est le pourquoi.
Parfait. Alors, pour tout savoir, surtout, ne refermez pas la page du tome 1. Allez tout de suite vous procurer le tome 2. Mais le tome 1 existe déjà en audio pour vous le procurer. Édition, comme ça se prononce, au pluriel, personnage au singulier.ca. Merci beaucoup, Suzanne Payne.
Ça m'a fait plaisir.
Allez, passez du bon temps d'écriture et revenez-nous vite avec d'autres personnages.
Merci.
Au revoir.
Bye bye.
Plus loin encore dans les contrées, jusqu'aux confins de ma pensée, la route baptise comme un prophète. Je m'agenouille à son chevet dans les forêts. Éternel, je quête aux arbres des vérités qui ne meurent pas sous le soleil, des vérités sauvages et belles. Le soleil doucement se prosterne sur l'océan, les séquoias sont les géants qui ouvrent les portes de l'enchantement. Et je capitule enfin sous les par l'extase dans un vieil hôtel usé avec l'espoir de partir demain. La valise pleine d'histoire pour découvrir au matin dans d'un an. J'ai marché comme un pèlerin sur un vieux trottoir usé où des routards fatigués traînent un rêve pour seul bagage. Les pianos se déchaînent jusqu'aux oreilles des poètes et par une faille du temps se glisse un air d'éternité. Et je capitule enfin. L'espoir de partir demain. La valise pleine d'histoire pour découvrir au matin dans la lumière embrasée le clin d'œil amusé d'un. Suivant le ressac des visages qui échouent sur le rivage.
Belle découverte, ça, Emily Klepper qui chantait sur la route. Nous, on va reprendre à l'émission de Livre plein les oreilles, La route des polars. Après celui de Suzanne Payne, voici Rituel d'Alison Cooper. Ça, c'est une proposition de chez Audiolib.fr, la plateforme de livres audio. Alors, que nous dit-on sur Audiolib de ce livre-là ? Vous avez aimé, écrit-on, Le silence des agneaux, eh bien, vous allez adorer Rituel. Spécialiste des neurosciences, Sayer Alter, on va prononcer ça comme ça, étudie pour le FBI les profils psychologiques de tueurs en série. Dérouté, littéralement dérouté par une scène de crime très particulière, sa hiérarchie fait appel à elle. On vient de trouver dans une maison abandonnée de Washington le corps d'une jeune fille à qui on a injecté une drogue hallucinogène utilisée par les chamans d'Amazonie durant les cérémonies rituelles. Lorsque l'on découvre d'étranges symboles mayas sur les lieux, l'enquête se dirige vers un tueur aussi passionnant qu'insaisissable. Quelques mots sur Alison Cooper. Elle est docteure en archéologie. Elle ouvre avec Rituel une série consacrée à Sayer Alter qui mêle le meurtre, neurologie et superstition aussi. C'est un univers qu'on nous prédit aussi inédit que fascinant, avec des intrigues captivantes, un personnage inoubliable. On attend déjà avec impatience son prochain thriller qui va s'appeler Sacrifice après Rituel et c'est à paraître dans le courant de l'année sur papier déjà aux éditions du Cherche Midi. J'ai un extrait à vous proposer de Rituel.
À moins d'être soi-même un psychopathe, il n'y avait pas d'autre moyen de faire ce boulot. Donc, poursuivit Vic en ouvrant son carnet, ça a commencé avec un appel au 911 il y a 12 jours. Une jeune fille désorientée. La communication a rapidement coupé. L'appel venait de ce quartier, mais ils n'ont pas pu le localiser plus précisément. Des agents sont venus faire un contrôle de routine, ont frappé à quelques portes et en ont conclu que c'était une junkie en plein trip qui avait appelé. Comme l'endroit semblait désert, ils sont repartis. Oh merde. Sayer vérifia qu'elle ne portait aucun objet risquant de tomber. Puis elle enfila une paire de gants.
« Je sais... »
répondit-il, allongeant tellement la seconde syllabe que sa phrase sembla se muer en une lamentation. « Donc la police reçoit un appel aujourd'hui au sujet d'une odeur suspecte. Les mêmes flics qui étaient venus la première fois enfoncent la porte. L'odeur vient du sous-sol. En haut des escaliers, le premier flic se prend les pieds dans un fil relié à un fusil. La déflagration atteint le malheureux de plein fouet. Son partenaire a aussi reçu quelques éclats, mais il s'en sortira. L'autre, c'est moins sûr. Son état est jugé critique. Sayer et Vic traversèrent lentement le couloir jusqu'à la cuisine, où s'affairaient deux techniciens de scène de crime, agenouillés par terre. Elle s'arrêta en haut des marches et baissa les yeux vers le sous-sol. Le fusil qui n'avait pas encore été retiré par les techniciens était braqué sur elle.
Ça s'appelle Rituel d'Alison Cooper, C-O-O-P-E-R, et c'est en livre audio chez Audiolib. On va quitter le monde du polar pour l'histoire d'amour, mais quoique dans ce cas-ci, ce serait plutôt une histoire de désamour avec La valeur de sable de Stéphane Bourguignon, lu par Normand Dano. Oui, Stéphane Bourguignon, c'est celui qui nous avait donné La vie, on se souvient de cette série, pour ceux qui s'en souviennent avec délectation, ce qui est mon cas, eh bien, si vous plongez dans ce bouquin, vous retomberez dans la même folie douce de cette série-là, avec des personnages bien ancrés dans la réalité, à commencer par ce Julien, par exemple, qui ne veut plus rien savoir des femmes. Faut dire qu'il est en deuil de Florence et il se jure que jamais il ne retombera dans le piège des femmes. Voici le début du livre, tel que lu par Normand Dano. C'est une production de Livre Audio Radio-Canada.
C'est vrai que depuis le départ de Florence, je n'ai pas fait grand-chose. C'est vrai que je n'ai pas remué le petit doigt plus souvent qu'il le faut. Par contre, aujourd'hui, c'est fini tout ça, je le jure, bien fini. D'ailleurs, ce soir, c'était une exception. Rien à voir avec elle. Je voulais juste quelques heures à moi. Une simple poignée de minutes. Un minable grain dans le grand sablier de l'éternité. Ce n'était pas beaucoup demandé. Rosemary's Baby repassait à la télé, et il restait suffisamment de bière dans le frigidaire pour me catapulter gentiment dans les bras de Morphée. Seulement, je n'avais pas débouché ma première canette que Pierrot débarquait dans la chambre en gueulant que 8 mois c'était suffisant, qu'il n'allait pas m'endurer avec cette tête 1 seconde de plus, que le temps était venu de me grouiller le cul. J'ai maugréé jusqu'à la salle de bain, coupé ma barbe de 240 jours et enfilé un t-shirt propre. Il m'attendait sur le trottoir, je n'ai pas osé lui demander où nous allions, je me suis grouillé le cul.
Voilà un extrait de La valeur de sable de Stéphane Bourguignon, une production Radio-Canada, lu par Normand Dano. Restez des nôtres en seconde partie de cette émission des livres pleins les oreilles. Je vais vous parler d'une femme absolument exceptionnelle qui s'appelle Roxane Gay et d'un essai qu'elle a rédigé qui s'appelle Affamée, qui est sorti également maintenant en livre audio. Et puis, je vais recevoir, m'entretenir plutôt avec Yannick Olassa pour une de ses nouvelles chroniques. C'est Clotilde Say qui vous dit à tout de suite. Des livres pleins les oreilles, la suite. Il faut que vous sachiez que ma vie est coupée en deux, pas très proprement. Il y a l'avant et l'après. Avant que je prenne du poids, après que j'ai pris du poids. Avant qu'on me viole, après qu'on m'a violée. Ces mots sont ceux de Roxane Gay, dont je viens de lire le livre à haute voix, un essai qui s'appelle « Affamé »,« Hunger » en anglais, et c'est sorti à la maison d'édition Edito. Et j'avais très très envie, maintenant qu'il est disponible sur le site www.livreaudio.vusevoix.com, j'avais très envie de vous en parler, ça a été un vrai coup de cœur que j'ai eu là de lire ses propos, que j'ai commencé par lire à voix basse, puis à voix haute. Alors ça, ce sera pour dans quelques secondes. Et juste après, je vais m'entretenir avec Yannick Olassa, qui va nous parler d'un livre dont j'aime tellement le titre, « Un monde mort comme la lune ». Un petit peu de musique juste avant tout ça.
Tu sais, je suis bien avec toi, même si je ne suis pas vraiment tactile. Quand on marche côte à côte, ça me va. Je sais pourtant que c'est pas facile pour toi. Je vais te le dire, mon chagrin, celui que j'ai sur le corps et le cœur. Parce que j'ai confiance en moi, enfin, et qu'elle ne me me font pas peur, tes mains. J'ai le mal amour, le mal amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. J'ai le mal amour, le mal amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse. T'as vu l'hiver est en avance, le froid. Ces feuilles qui tombent à l'appel et ces branches nues sans défense, je crois qu'elles me font signe et me rappellent cette fois où sous mes pas son escalier craquait, moi devant sa porte bleu pâle, ce bleu qu'on se fait quand on se fait mal, je frappais. Heureuse, craintive ou un peu les deux. J'ai le mal amour, le mal amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. J'ai le mal amour, le mal amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse. Il m'attirait comme un aimant. Moi la mal aimée, lui le mal amant. Si je n'avais pas touché le sol, ce jour-là je serais devenue folle. Je n'ai plus honte, il faut que tu saches assez de toutes les plaies que l'on cache. Et de tous les cris que l'on garde en soi, tout ce mal qu'on se fait par amour. Adieu le mal amour, le mal amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal amour, le mal amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse. Adieu le Adieu le mal amour, le mal amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse.
Encore une autre belle découverte dans cette émission, Barbara Pravi, le mal amour, qui nous amène tellement bien dans l'univers de Roxane Gay, qui elle aussi a connu les coups et les caresses. D'abord, qui est Roxane Gay? Roxane Gay, c'est un personnage hors norme, dans tous les sens du terme. Femme, bad féministe, comme le titre d'un autre de ses essais, professeure, conférencière, bisexuelle. Roxane Gay, elle est un petit peu la voix de toutes celles qui se taisent. Ah, est-ce que je vous ai précisé? Noire, en plus, aux États-Unis. Elle, c'est une femme, Roxane Gay, qui n'a absolument pas sa langue dans sa poche. Cette femme née aux États-Unis de parents haïtiens, qui a beaucoup étudié, parce que chez les gays, les études, c'était du sérieux. Et ils avaient de quoi être fiers de leur fille. Alors, comme je vous le disais, alors qu'on vient d'apprendre là qu'un État américain va interdire l'avortement, cette femme, c'est un petit peu la rassurance même. On se déplace de partout pour l'entendre parler des droits des femmes et du droit d'être ce que l'on est. Point. Dans le corps qui nous est donné, ou le corps qui devient ce qu'on en fait suite à des circonstances, souvent tragiques et toujours personnelles. Dans Affamée, par exemple, nous apprenons comment une jeune et jolie jeune fille de 12 ans est transformée à vie par un événement cauchemardesque, un événement que toutes les filles et leurs parents redoutent. Le viol. La jeune et jolie jeune fille de 12 ans est maintenant une femme qui a franchi le cap des 40 ans. Une femme qui a aussi franchi le cap des 260 kilos. Autrement dit, plus de 500 livres donc. Il est possible qu'au moment où je vous dise ce poids-là, vous pensiez, vous, tout de suite peut-être, à la montagne de nourriture qu'il faut absorber pour en arriver là. C'est vrai. Mais moi, je vous avouerai que je pense d'abord à la montagne de souffrance qu'il faut gravir tous les jours pour faire de son corps cette espèce de forteresse imprenable. Permettez que je vous lise le tout début du livre. C'est Roxane Gay qui s'exprime. L'histoire de mon corps n'est pas le récit d'un triomphe. Ce n'est pas un récit sur la perte de poids. Il n'y aura pas de photos présentant une version amaigrie de moi-même. Mon corps élancé, étalé sur la jaquette de ce livre, où je me tiendrai debout dans l'une des jambes du pantalon de mon ancien moi hypertrophié. Ceci n'est pas un livre censé motiver. Je n'ai pas d'idée géniale sur ce qu'il faut faire pour vaincre un corps et des appétits incontrôlables. Mon histoire n'est pas celle d'une réussite. Ce n'est qu'une histoire vraie. J'aimerais tellement pouvoir écrire un livre sur une perte de poids triomphale, sur la façon dont j'aurais appris à mieux vivre avec mes démons. J'aimerais pouvoir écrire un livre qui raconte que je suis en paix, que je m'aime comme je suis, quelle que soit ma corpulence. À la place, j'ai écrit celui-ci, le plus difficile que j'ai jamais écrit, bien plus difficile que je n'aurais pu l'imaginer. Quand j'ai commencé affamée, j'étais certaine que les mots ne me viendraient aussi facilement que d'habitude. Et que pouvait-il y avoir de plus facile que d'écrire sur ce corps dans lequel j'avais vécu pendant plus de 40 ans? Mais je me suis vite aperçue que je n'écrivais pas seulement un récit sur mon corps, j'étais en train de me forcer à regarder ce qu'il avait enduré, le poids que j'avais pris et à quel point il avait été difficile de vivre avec puis de le perdre. J'ai été obligée de regarder en face mes secrets les plus inavouables. J'ai mis mes tripes sur la table. Je me suis exposée. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas facile. J'aimerais avoir assez de force et de volonté pour vous raconter une histoire triomphale. Je suis en quête de cette force et de cette volonté. Je suis déterminée à être plus que mon corps, plus que ce qu'il a enduré, plus que ce qu'il est devenu. Cette détermination, cependant, ne m'a pas menée bien loin. Ce livre est une confession. Il dévoile mes facettes les plus laides, les plus faibles, les plus avifs. C'est ma vérité. C'est un récit sur mon corps parce que trop souvent, les histoires des corps comme le mien sont ignorées, écartées ou tournées en dérision. Les gens voient des corps comme le mien et ont des a priori. Ils croient qu'ils connaissent le pourquoi de mon corps. Ce n'est pas le cas. Ceci n'est pas l'histoire d'un triomphe, mais c'est une histoire qui exige d'être racontée et qui mérite d'être entendue. Ceci est un livre sur mon corps, sur ma faim et au bout du compte, sur le fait de disparaître, d'être perdu et de vouloir, de tellement vouloir, être vue et comprise. Ceci est un livre sur la façon dont j'ai appris, bien que lentement, à accepter d'être vue et comprise. Voilà un extrait de « Affamé » de Roxane Gay que vous pouvez maintenant entendre, alors découvrir soit sur papier, c'est chez Edito, soit encore eh bien, entendre tout le livre que j'ai lu comme cet extrait que je viens de vous faire. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'entendre sa voix à elle, la voix de Roxane Gay, à qui l'on demande quand, comment et pourquoi elle a écrit cet essai. Rassurez-vous, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas parfaitement bilingues, je vais me faire un plaisir de vous traduire les propos de Roxane Gay qui sont tenus dans sa langue natale, bien évidemment, l'anglais.
When I decided to write this book, it was 2014, just before Bad Feminist came out. And my agent said, hey, let's pitch another book idea. And I was like, yeah, let's do it before the book comes out in case it flops, so I have another book deal. Which is how I think. Big mistake. Huge. And that was Pretty Woman. Anyway, I thought the thing I want to write about least is fatness and my body and the experience of living in my body in this world. And that's when I knew, oh, God damn it, this is the book I'm going to have to write. Because the things that I like writing about the least end up being oftentimes the most intellectually satisfying. And that was indeed the case for this book. But it was difficult. It was really hard.
What is satisfying about having written it?
Having written it. what was satisfying is that when you're fat, people project a lot of bullshit onto your body and make a lot of assumptions about why you're fat, as if they deserve to, as if they have a right to the story of your body. And so to tell the story of my body for what it is, neither good nor bad, just it is what it is, was really satisfying. And the people who are most inclined to project onto me aren't going to read a book like Hunger, but I didn't write it for them.
Voilà, c'était la voix de Roxane Gay que vous entendiez. Alors, laissez-moi vous dire en substance ce qu'elle disait en anglais. Quand j'ai décidé d'écrire ce livre, c'était en 2014, juste avant la sortie du livre « Bad Féministe ». Et mon agent a dit hey, « on pourrait faire un petit pitch pour une autre idée de livre ». Et je pensais « ouais, faisons-le avant que le livre sorte au cas où celui-ci ne fonctionne pas ». Alors j'aurais déjà un autre contrat de livre. Et elle dit « c'est toujours comme ça que je pense ». C'est « big mistake », une grossière erreur, « huge », terrible. Et oui, ça c'était dans « Pretty Woman ». Bon, passons. Je pensais que la chose, dit Roxane Gay, sur laquelle je voulais écrire le moins, était mon surpoids et sur mon corps. Et l'expérience de vivre avec mon corps dans ce monde. Et c'est là que j'ai su, oh mon Dieu, que c'était le livre que j'allais devoir écrire. Parce que les choses sur lesquelles j'aime le moins écrire finissent par être le plus souvent les plus satisfaisantes intellectuellement. Mais c'était difficile, c'était très dur, a-t-elle dit. Et quand on lui a posé la question « qu'est-ce qui a été le plus satisfaisant de l'avoir écrit ?» Elle dit « de l'avoir écrit, ça la fait rire. Ce qui était satisfaisant, c'est que lorsque vous êtes gros, les gens projettent beaucoup de conneries sur votre corps et font beaucoup de suppositions sur les raisons pour lesquelles vous êtes gros, comme s'ils méritaient, comme s'ils se donnaient le droit, a-t-elle ajouté, de faire ces commentaires, comme s'ils avaient un droit sur l'histoire de votre corps. Et donc, raconter l'histoire de mon corps pour ce qu'il est, ni bon, ni mauvais, mais juste pour ce qu'il est, j'en étais très satisfaite. » Et elle a conclu en disant « Et les gens les plus enclins à me projeter leurs angoisses ne liront pas ce livre, un livre comme Hunger, affamé, mais ce n'est pas pour eux que je l'ai écrit. » J'ai envie de vous en partager un autre extrait. C'est excessivement touchant. C'est au début, lorsqu'elle commence vraiment à se laisser engraisser beaucoup, à se faire engraisser beaucoup. Ses parents décident de l'amener voir un chirurgien. Vous savez, ces chirurgies terriblement invasives où on vous enlève un bout d'estomac, etc. Et donc, on est dans la salle d'attente. Les médecins nous ont montré des vidéos de l'opération, des caméras et des outils chirurgicaux dans des cavités internes luisantes, en train de couper, pousser, recoudre et enlever des éléments essentiels d'un corps. Ses entrailles étaient rouges vifs, roses et jaunes. C'était grotesque et glaçant. Mon père, à ma gauche, était livide, clairement choqué par cet affichage brutal. « Qu'en penses-tu » m'a-t-il demandé doucement. « C'est le musée des horreurs », ai-je répondu. Il a acquiescé de la tête. C'était la première fois que nous tombions d'accord depuis des années. Puis la vidéo a pris fin. Le médecin a souri et a lancé gaiement que l'intervention, brève, était une laparoscopie. Il nous a assuré qu'il en avait pratiqué plus de 3000 et qu'il n'avait perdu qu'un seul patient, un homme de 385 kilos, a-t-il avoué en s'excusant dans un murmure comme si la honte du corps de cet homme ne pouvait pas s'énoncer à haute voix. Ensuite, il nous a annoncé le prix du bonheur, 25 000 $, moins une remise de 270 $ pour la séance d'information une fois que les arts seraient versés. Avant que cette torture ne prenne fin, nous avons eu un entretien en tête-à-tête avec le médecin dans une salle d'examen. En attendant son arrivée, son assistant, un interne, a noté mes antécédents. J'ai été mesuré, pesé et calmement jugé. Il a écouté mes pulsations cardiaques, palpé mes glandes salivaires et noté quelques informations supplémentaires. Au bout d'une demi-heure, le médecin s'est finalement présenté. Il m'a regardé de la tête aux pieds. Il a jeté un coup d'œil à mon nouveau dossier en feuilletant rapidement les pages. « Oui, oui, » a-t-il déclaré, « vous êtes une candidate parfaite pour cette intervention. Nous allons vous inscrire tout de suite. » Puis il est ressorti, l'interne a rédigé une prescription pour les examens préliminaires qu'il me faudrait faire et je suis reparti avec une lettre certifiant que j'avais participé à la séance d'information. À l'évidence, il faisait cela tous les jours. Je n'étais pas unique, je n'étais pas spécial, j'étais un corps qui avait besoin d'être réparé et nous sommes nombreux en ce monde à vivre dans des corps aussi profondément humains. Mon père, qui patientait dans la luxueuse salle d'attente, m'a posé la main sur l'épaule. « Tu n'en es pas encore là », a-t-il dit. « Un petit peu plus de maîtrise de toi, de l'exercice, 2-3 fois par jour, c'est tout ce dont tu as besoin. » J'ai acquiescé vigoureusement, mais plus tard, toute seule dans ma chambre, j'ai lu attentivement la documentation qu'on m'avait fournie. Sans pouvoir détourner les yeux des photos avant-après, je désirais, et je désire encore tellement cet après. Je me suis souvenu du résultat de la pesée, de la mesure et du jugement de ce nombre vertigineux, 261 kilos. Je croyais avoir déjà connu la honte dans ma vie, mais cette nuit-là, j'ai vraiment découvert la honte. Je ne savais pas si je parviendrais un jour à la dépasser, à trouver comment affronter mon corps, accepter mon corps, changer mon corps. Affamée, traduction du best-seller Hunger, une histoire de mon corps, par Roxane Gay, que vous trouvez maintenant sur toutes les plateformes audio, à commencer par celle de Vues et Voix, où j'ai enregistré ce livre, à livreaudio.vuesetvoix.com.
Faire avec mon corps, l'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort. Quoi faire avec mon corps, l'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir. Quoi faire avec mon corps, le faire courir ou méditer, le garder vivant.
Oui, que faire avec mon corps, pour faire écho à cet essai de Roxane Gay dont je viens de vous parler, qui s'appelle Affamé. On retrouve maintenant Yannick Olassa. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Yannick, j'ai bien lu le titre du livre dont vous voulez nous parler, c'est bien « Un monde mort comme la lune » ?
Oui, en effet, c'est « Un monde mort comme la lune » qui est en fait le premier roman de Michel Jean. Je vous ai déjà parlé de Michel Jean à quelques reprises.
Oui, oui.
Et c'est comme si j'étais allée à rebours. Hein,
oui, c'est vrai.
Avec son tout premier roman. Dans lequel, en fait, il nous parle de Jean-Nicolas Legendre, un reporter qui est envoyé en mission en Haïti pour la chaîne de télévision pour laquelle il travaille. Et sa mission, son mandat, c'est de trouver des preuves qui établiraient un lien entre des narcotrafiquants colombiens, des gangs de rue de Montréal et le président haïtien Jean-Bertrand Aristide.
OK.
Donc, on s'entend que c'est une tâche qui est délicate et dangereuse. Et dans ce roman-là, Michel Jean, qui a été grand reporter aussi, qui a déjà gagné le prix Judith Jasmin, si je ne m'abuse, pour un reportage qu'il a fait au Liban, il entremêle, cette fois-ci, des faits historiques liés au dernier moment du règne d'Aristide et des faits de fiction.
Oui.
Avec Jean-Nicolas Legendre qui va se déplacer entre la capitale et Cité Soleil pour élucider l'affaire. Bien sûr, ce ne sera pas une tâche aisée, comme on le disait. Mmh. Il va aller à la rencontre d'un redoutable chef de bande qui donne littéralement froid dans le dos, là, je vous le dis. À force de persévérance, il va réussir à établir les liens entre les diverses parties, termine son reportage et là, il est de retour à la maison où il se trouve propulsé dans une tornade médiatique et politique secondaire à ses révélations.
Mm-hmm.
Et elles vont avoir de graves conséquences, beaucoup plus qu'il ne l'avait cru.
OK.
C'est un livre qui est très intéressant, notamment parce que, bon, on y dépeint hein, le Haïti à l'époque de Jean-Bertrand Aristide,
ouais.
Le chaos qui sévit là-bas. Et aussi, ben, de la façon dont Michel Jean présente les choses, il y a toujours comme une espèce de dualité, notamment dans la vie du personnage qui aime sa vie professionnelle où il carbure à l'adrénaline puis au rythme trépidant, et sa vie personnelle où, bien sûr, une fois qu'il a terminé ses missions, il revient à la maison dans le calme et tout ça, mais aussi par l'entremise de d'autres personnages. L'auteur, il va sous-entendre que les deux extrêmes existent toujours en nous et que certains événements peuvent nous faire basculer complètement à l'opposé de la personne qu'on croyait être. Et ça, je trouve ça très, très intéressant parce qu'on a souvent tendance à démoniser des gens.
Mm.
Mais en fait, on voit qu'ils possèdent à la fois le côté positif, un côté positif, un côté bon et un côté aussi capable de grande cruauté.
Mm-hmm.
Puis, on constate aussi que...
C'est comme un polar ou c'est plus une recherche journalistique?
C'est vraiment comme un polar. Hein. Il y a du suspense, il y a un climat de tension là-dedans, mais avec une écriture limpide, précise et je dirais même soignée.
Oui.
On a des ambiances là, qui sont merveilleuses.
J'avais oublié de vous demander si vous aviez un petit extrait. Je ne sais pas si vous avez le bouquin sous la main. Ou...
Oui, je suis allée chercher le bouquin à la bibliothèque parce que le mien, il est quelque part entre les 2000 livres qui sont dans mon sous-sol.
Je vois. En auriez-vous un petit extrait à nous offrir?
Oui,
on aurait une petite minute pour ça.
Justement. Port-au-Prince, octobre 2003. Le choc, il le ressentit dès qu'il posa le pied hors de l'avion. Tout de suite, il comprit, il venait d'entrer dans un monde autre, un monde différent. Ce n'était pas le sien, il y était étranger et pas nécessairement le bienvenu, il le sentit. Cela avait commencé par un effleurement suave, presque une caresse glissant sur ses chevilles nues. Elle s'y était enroulée sans bruit, si amarrant. Puis soudain, elle s'était engouffrée entre sa peau et le tissu du pantalon, avait remonté le long de ses jambes, filé le long de son corps dans une furieuse accélération qui ne lui laissa pas le temps de réagir. Une seconde plus tard, elle le submergeait, serrait sa poitrine. Elle le tenait dans une cisaille oppressante. Il tenait à respirer. Il dut faire un violent effort pour arriver à forcer ses poumons à insuffler un peu d'air. Assez pour le garder conscient, mais à peine pour le maintenir debout. Ses jambes de plomb tremblaient maintenant. Sa peau moite se couvrit de grosses gouttes de sueur ruisselant le long de son corps, trempant ses vêtements. Il se débattait et il fallut quelques minutes interminables pour comprendre ce qui l'avait agressé. La chaleur.
Ah oui. Ah, bravo, parce que on la sent s'enrouler sur les chevilles comme ça, et c'est effectivement une magnifique écriture hein, de Michel Jean. Parce que parfois, quand on a affaire à des journalistes comme ça, c'est pas forcément poétique. Hein. Alors que là, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on aime d'un univers comme d'un livre comme celui-ci. Puis j'imagine qu'on en découvre beaucoup sur la vie à Haïti sous la période sombre d'Aristide. Hein.
Absolument, absolument. Ouais. Je vous dis, moi, j'ai vraiment appris des choses. J'ai beaucoup apprécié cette lecture-là.
Parfait. Yannick, merci beaucoup. C'était notre dernière à vous et moi pour cette saison. Mais j'espère bien qu'on aura l'occasion de vous retrouver à la saison prochaine. Je voudrais vous remercier beaucoup pour toutes ces heures que vous passez à lire pour nous, à préparer toutes ces chroniques et à venir nous en parler une fois par mois ici à cette émission. Voilà. Alors, merci infiniment. Yannick.
C'est un plaisir.
Et je vous souhaite la meilleure santé possible. Hein?
Oui.
Allez, on vous embrasse. Au revoir. Voilà Yannick Olassa qui nous parlait d'un livre de Michel Jean, « Un monde mort ». Comme la lune. Je voudrais remercier Suzanne Payne qui nous a parlé en début d'émission autour de sa trilogie et de ce tome 1 Annabelle, maintenant disponible aux éditions Personnage sur livre, sur papier et en audio. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.